Très bien, je vais aussi m'interroger sur les usages de Foucault, de la pensée de Foucault, mais d'un autre point de vue, qui est un point de vue de sociologue, et m'interroger sur, au fond, à quoi sert Foucault pour les sociologues? Sert-il à quelque chose ou ne sert-il à rien? J'essaierai de conclure qu'il ne sert pas à grand-chose. Je m'interrogerai donc, pas de savoir s'il y a une sociologie foucauldienne, mais plutôt sur les usages, disons, que l'on peut faire de cette pensée, de ces concepts, de ces perspectives, dans une démarche qui serait une démarche proprement sociologique. Je veux dire aussi que je le ferai de manière modeste, parce que je ne suis pas un spécialiste de Foucault, que j'ai lu, mais je n'ai certainement pas tout lu, loin de là. Tant aussi, il me semble que c'est une pensée qui a évolué, qui se place souvent à différents niveaux, qui est assez difficile à saisir, en fonction de la nature des textes qu'il produit, de la nature des objets de réflexion qui sont les siens. Je suis pas sûr que Foucault, parlant de lui, ça soit exactement la même chose dans la perspective qu'il développe que le Foucault qui écrit l'histoire de la folie ou Surveiller et punir. Qui me semble parfois aussi assez contradictoire, ou du moins que j'ai du mal parfois à comprendre. Mais ceci est probablement dû à ma lecture un peu rapide. Je voudrais aussi le faire cet abord pratiquement, c'est-à-dire comme sociologue à partir du travail empirique, le travail qui est empirique qui est le mien, parce que je considère que la sociologie, disons, est une analyse de relations sociales concrètes, qui s'appuie sur du terrain et de la vie sociale analysée de façon concrète, contemporaine. Et donc, c'est toujours une réflexion limitée et située. Le point que je veux souligner ici, c'est que mon propre travail s'est toujours appuyé et s'appuie, disons, sur des domaines dont Foucault ne parle jamais en tant que tel, c'est-à-dire, au fond, les marginaux, les prisonniers, toute cette population qu'il catégorise souvent sur le thème de plèbe, qui est l'objet de pouvoir ou l'objet de relations de pouvoir, mais que l'on n'entend jamais, disons, dans son œuvre, et qui pourtant parle abondamment. Alors, j'ajoute que, toujours dans les réflexions préliminaires, qu'il me semble qu'il y a, si j'ai bien lu Foucault, quand même deux paradoxes à réfléchir sociologiquement sur cette œuvre. Pour aller très vite, il me semble qu'il a toujours été, je l'ai toujours lu comme ça, d'une très grande hostilité aux sciences humaines en tant que telles, aux sciences humaines positives, et il a toujours cherché une place, disons, en dehors des sciences humaines d'une certaine façon, puisqu'il a toujours aussi considéré que le diagnostic, j'y reviendrai, qu'il portait sur la vie sociale, c'est-à-dire le thème des pratiques disciplinaires et confessionnelles, de l'assujettissement, était aussi produit par les sciences humaines, et c'était les sciences humaines qui avaient donné forme, disons, d'une certaine manière, à cet ensemble de pratiques. Il développe ça abondamment, par exemple, dans Surveiller et punir. Deuxième paradoxe que je voudrais souligner, c'est que il n'a lui-même, me semble-t-il, jamais tenté d'entrer dans une sociologie ou dans une pensée de la vie sociale en tant que telle. Il me semble qu'il est toujours resté enfermé dans une archéologie, ce qu'il appelait une archéologie ou une généalogie des sciences sociales. C'est-à-dire qu'au fond, il n'est jamais sorti de ça, et sa perception de la vie sociale, il l'a construit à partir de l'histoire des sciences sociales qu'il développe ou qu'il produit. Et donc, il voit la vie sociale, me semble-t-il, toujours à travers cette histoire-là, à travers des textes, comme s'il y avait chez lui une forme, pour un sociologue, d'idéalisme, je dirais, discursif ou d'idéalisme pratique. Alors, une fois ces éléments donnés, je vais essayer de rentrer un peu plus concrètement dans les choses que je voudrais dire. Je dirais trois types de choses à partir de mon travail. J'essaierai d'abord de montrer pourquoi il n'est pas sociologue. La deuxième chose sur laquelle je voudrais m'interroger, c'est la question de la norme. et de la relation entre la norme, l'institution, disons, et les formes diverses d'habilitation et de contraintes développées par la norme. Et le troisième élément qui me semble intéressant chez Foucault et sur lequel je m'interrogerai, c'est le thème de la race, du sexe, du biopouvoir, mais disons de la construction de la sexualité et la façon dont on peut essayer de, d'aborder ce type, ce type de choses. Alors, premier ensemble d'éléments, comme je l'ai dit tout à l'heure, il me semble que si on réfléchit en sociologue, la sociologie a des fondements empiriques et elle consiste toujours, pour aller vite, à analyser des relations sociales dans des conjonctures historiques qui sont des conjonctures historiques particulières. Donc la sociologie ou les sociologues sont des gens assez curieux d'une certaine manière parce qu'ils partent d'un postulat assez simple à percevoir, d'un postulat de base qui est, qu'on pourrait dire de cette façon-là, qui est le postulat de l'écart d'une, d'une certaine façon. Il n'y a de sociologie possible que parce que nous supposons qu'il y a un écart entre la situation et l'action, entre le système et l'acteur, entre la conduite et son interprétation. Et les sociologues sont des gens qui se placent dans cet entre-deux, dans sa définition d'ailleurs la même, la plus triviale. Chez les sociologues, le social, c'est ce qui permet d'aller de l'acteur au système ou du système à l'acteur. C'est entre ces deux choses-là que se situent au fond les rapports sociaux et les conduites sociales, et que se situe cette catégorie fondamentale de, des sociologues, qui est l'action. L'action étant ce qui permet d'une certaine manière ou ce qui se déploie dans cet espace particulier du social. Donc la sociologie, peut-être ça, comme ça qu'il faut le dire, c'est une science morale, disons, pratique et morale de l'action. Et je ne vois pas comment on peut sortir, disons, en tant que sociologue, de cette affirmation. Le contrepoint de ça, c'est évidemment que là où il n'y a pas écart, pour parler vite, il n'y a pas de sociologie possible, il n'y a pas d'action possible, il n'y a pas d'acteurs sociaux possibles, donc pas, pas de sociologie possible. C'est là où la société est adéquate à elle-même, là où l'individu est ce qu'il est, d'une certaine manière, il n'y a pas de sociologie qui puisse se développer. Et donc ça veut dire que si les pouvoirs, si l'État a tout absorbé, eh bien il n'y a pas de social, d'une certaine manière, parce qu'il est adéquat à lui-même, dans un univers totalitaire. Il n'y a pas de sociologie qui puisse se construire. Mais là où l'individu, le sujet est aussi le personnage social et qu'il n'y a pas de distance entre le sujet et le personnage social, il n'y a pas de sociologie non plus qui puisse être possible. Alors on peut reprendre, disons, les vieux classiques, et notamment Mead, la sociologie se développe à partir de l'écart qui se construit socialement, généré entre le jeu et le soi. Donc pas de sociologie dans une société totalitaire, pas de sociologie non plus dans une société purement... purement libérale, dans laquelle, au fond, l'individu est adéquat à ses intérêts, et dans lequel, au fond, le social disparaît, absorbé par le, par le, par le marché. Alors, on peut le dire d'une, bien des façons, mais je pense que la sociologie est indissociable d'une, d'un diagnostic qui est aussi une méthode. Ce diagnostic, c'est, on peut prendre ce, cet exemple-là parce qu'il me semble être le plus clair, c'est celui de l'étranger. Au fond, c'est l'idée et l'affirmation que la condition d'étranger est la condition moderne et la condition sociale par, par définition. Nous sommes tous des étrangers à notre monde social ou à notre environnement ou à notre culture et développons un rapport qui est un rapport contingent, disons, à la culture, au pouvoir et aux formes d'organisation sociale. Ceci a été développé et construit intellectuellement, je pense, de façon extrêmement convaincante par la sociologie, de, les sociologues de Chicago, qui ont bien montré que c'était cette condition d'étranger qui libérait cet espace particulier qu'on appelle le social, avec ce thème et cette métaphore aussi souvent développée à partir de l'étranger, de l'hôtel. Au fond, nous vivons dans le monde moderne, dans des sociétés, parce que nous vivons comme si nous vivons à l'hôtel. Alors, tout ceci étant précisé... étant dit, évidemment, ça éloigne beaucoup de Foucault, que je voudrais lire à partir de là, et que je voudrais lire à partir de, et utiliser, disons, à partir de deux choses qui me semblent essentielles si on veut faire une sociologie ou utiliser une sociologie, c'est-à-dire le diagnostic qu'il porte sur la vie sociale, est-il pertinent ou n'est-il pas pertinent, et les outils qui, à partir de là, il permet, qu'on peut utiliser, disons, pour comprendre les relations sociales et les conduites, et les conduites sociales. Alors, Très rapidement aussi, et de manière un peu caricaturale, il me semble que le diagnostic de Foucault, c'est comme ça que je l'ai toujours lu, au moins, c'est l'idée d'une société qui est une société normalisatrice. Donc Foucault est très intéressant en ce sens-là. Il rejette l'idée d'un pouvoir centralisé au profit d'une image qui est une image stratégique, comme il l'utilise, et surtout au profit du développement d'une idée que la pratique du pouvoir, pour aller vite aussi, correspond aux catégories de la pratique. Donc ça signifie pour lui que dans le monde moderne, le pouvoir est partout, d'une certaine manière, et que l'organisation de la vie collective dans son ensemble est fabriquée, est imposée par une certaine stratégie ou un certain diagramme de pouvoir. Alors, tout de suite, si on lit ça en sociologue, c'est assez intéressant parce que c'est au fond la radicalisation d'une idée de base de la sociologie, qui est l'idée de Weber, qui est l'idée de la rationalisation, qui est l'idée de la cage de fer, et c'est une radicalisation qui en enlève toute la complexité d'une certaine façon, toute la complexité qu'on pouvait trouver chez Weber, et tout ce thème qui me paraît essentiel dans tout ça, tout le thème de l'ambivalence qu'il y a, disons, dans la façon dont pense Weber. Il y a chez Foucault, me semble-t-il, cette image, et chez lui c'est assez étrange, je trouve, quand on le lit, à quel point son image du pouvoir correspond à ce que les libéraux pourraient avoir comme image du marché. C'est un mécanisme qui, d'une certaine manière, régule et absorbe tout de façon anonyme, sans qu'il y ait d'accord. Alors, ce qui est intéressant, je dis ça très, très rapidement, du point de vue de la sociologie aussi, ou du point de vue du sociologue que je suis, c'est d'observer que le diagnostic qu'il porte n'est pas très original d'une certaine manière. Il est très proche, il est pratiquement le même d'ailleurs que celui qui a été porté à la sortie de la guerre dans les années 50 par la sociologie américaine, par le thème de la société, notamment de la société de masse. Et je pense aux grandes analyses qui ont été développées sur les classes moyennes dans cette perspective-là, au thème de Riesman, c'est-à-dire l'idée d'un monde social qui est entièrement normé, d'une certaine manière, où l'individu, comme le disait Riesman, est entièrement extra-déterminé. Il est le pur produit du regard, de forme de pouvoir normatif qui s'exerce par le regard directement sur les corps, expliquait Riesman. Il n'y a plus d'intériorisation de la norme, contrairement à ce qui existe dans le monde bourgeois, et donc plus d'action possible d'une certaine manière, adéquation de plus en plus grande entre la conformité et l'individualité, et disparition, disons, des acteurs. Pour le dire d'une autre façon, très intéressant aussi, parce que c'est le même diagnostic que posait quelqu'un qui a eu une importance considérable dans notre histoire, qui est Betty Friedan, sur les femmes. L'idée de la mystique féminine et de la fabrication d'une identité et d'un sujet femme par des pouvoirs normatifs qui s'exercent notamment sur la construction d'une forme de sexualité auxquelles les femmes sont aliénées. Alors, disons, c'est à peu près le même diagnostic qu'on peut lire dans la pensée de Foucault, avec chez lui cet appel en permanence à la résistance ou à la sortie du monde, disons, ou au combat, comme il le dit, aux capacités de subjectivation. Ce qui est intéressant, c'est que dans son univers clos, je trouve, mais si on le lit du point de vue de l'histoire culturelle, il va chercher ces formes de résistance d'une certaine façon, me semble-t-il, soit tantôt dans ce qui est l'expérience des limites, c'est son héritage de bataille, soit ce qui est très intéressant, ce qui a été rappelé à la fin, disons, dans une sorte d'esthétique de soi ou de construction esthétique de soi, qui n'est quand même pas sans rappeler, si on veut insister là-dessus, disons, le mépris aristocratique pour la culture bourgeoise, d'une certaine façon, et cette espèce de distance dans la tradition française, qu'on trouve beaucoup chez les écrivains notamment, cette prise de distance vis-à-vis d'une culture bourgeoise qui est une culture de masse et qui est une culture, disons, aliénante. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Et est-ce qu'on peut utiliser tout ça, disons, dans la compréhension de mécanismes sociaux qui sont des mécanismes sociaux plus concrets et plus directs? Ce que je voudrais essayer de dire, c'est qu'il me semble qu'on peut utiliser un certain nombre de choses à condition de réintroduire ce que Foucault évacue, c'est-à-dire au fond le thème de l'ambivalence et de la capacité d'habilitation de la norme et de l'institution. Et deuxièmement, en percevant bien que Foucault pose son diagnostic et construit sa pensée dans une période historique dans laquelle il n'a pas encore connu véritablement Margaret Thatcher, c'est-à-dire la crise de l'État-providence, le développement de la marginalité urbaine, l'écrasement d'un certain nombre de d'institutions de protection sociale. Et deuxième chose très intéressante qui m'a toujours intrigué, lui qui a vécu, me semble-t-il, je ne suis pas spécialiste en Tunisie et dans la Tunisie coloniale, il n'a aucune sensibilité à cette dimension-là et reste extrêmement européo-centré, me semble-t-il, dans sa construction. Et notamment, ça a bien été montré dans les études postcoloniales, son incompréhension de l'articulation des questions de race et de sexe dans les formes de domination subies et sur lesquelles je vais revenir. De ce point de vue-là, il me semble que la pensée de Fanon est plus directement utilisable. Alors, deuxième point que je voulais aborder, c'est rentrer de façon plus concrète dans des observations et des réflexions plus directement utilisables. Le travail que j'ai produit ou le travail que je cherche à faire, c'est de m'interroger sur des gens que l'on pourrait qualifier de gens étant hors société, dans un monde qui est d'essayer de comprendre ce qui se passe, au fond, quand les individus sont exclus, quand ils sont placés hors du monde social, hors du marché du travail, hors des institutions sociales. Et ça a bien été souligné comme ça par exemple, quelqu'un comme Castel, quand ils sont désaffiliés, pour prendre ce terme-là. Alors, les études que je mène sont des études, disons, sur la vie quotidienne de ce genre de gens, sur ce qu'ils racontent, mais aussi les formes d'action collective, les émeutes, par exemple, font partie de ce type de choses. Alors, on observe ici un ensemble d'éléments qui peuvent être intéressants. Tout d'abord, que c'est un monde poreux, hétérogène et poreux. On passe assez facilement d'un secteur à l'autre et on passe, disons, souvent dans sa vie, on peut avoir un pied dedans, un pied dehors. Donc, ces constructions-là ou ces exclusions-là, il ne faut pas les voir en termes absolus. Cela dit, on a plutôt affaire à des gens qui sont hors plutôt que dominés, qui se plaignent et qui vivent, disons, plutôt de l'effondrement et plutôt de la difficulté à la construction de soi, plutôt qu'une forme de normalisation, parce qu'ils sont, d'une certaine façon, hors rapports sociaux ordinaires. Alors, quand ils sont placés dans cette situation, qu'est-ce qui se passe ? Il me semble que ce qui est intéressant, et c'est ça que j'ai voulu essayer de montrer, c'est que, au fond, ils construisent un monde social. Et c'est ça qui m'a semblé le plus intéressant, un monde normatif, mais un monde social et un monde normatif qui fonctionnent à l'inverse du monde social et normatif qui est le nôtre, qui est cet univers néolibéral que nous connaissons. Nous vivons dans une société, pour parler vite, où les individus construisent, disons, un monde social auquel ils rêvent ou ils essayent d'échapper collectivement. On essaye d'échapper, disons, par la restauration de la communauté, par la défense des institutions, l'appel à l'identité, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant chez les marginaux, dans la marginalité urbaine, c'est que les individus fabriquent collectivement un monde social auquel ils essayent d'échapper individuellement, pour parler vite. Et donc, assez curieusement, ce qu'ils fabriquent, c'est un monde hyper social, pour le coup très foucauldien, hyper normé, hyper moralisateur, hyper normalisateur, qui est notamment fondé sur un ordre sexuel, un ordre des genres, un ordre racial aussi, qui est extrêmement rigide et qui s'impose et qu'ils imposent à tout le monde, une hiérarchie des genres et des rôles qui est assez claire. Et donc, ils construisent les règles, au fond, des règles de construction de soi qu'ils imposent aux autres, qu'ils s'imposent à eux-mêmes comme autant d'épreuves, mais auxquelles ils voudraient bien, auxquelles ils essayent aussi d'échapper individuellement, soit par la fuite pratique, soit par des fuites spirituelles, ils deviennent religieux, la foi, soit par la destruction ou des formes d'autodestruction. C'est ce que j'ai appelé le ghetto. Deuxième ou troisième observation qu'on peut faire là-dessus, c'est que cette expérience-là, quand on écoute les gens, ce qu'ils racontent, c'est qu'ils ont le sentiment profond de ne pas pouvoir vivre leur vie. J'utilise les termes parce qu'ils parlent beaucoup, qu'ils utilisent. Autrement dit, l'idée que la réalité et la vérité sont hors de leur monde social, ils sont au-delà des murs, dans ce monde néolibéral, et qu'eux vivent dans une sorte de mensonge, d'une certaine façon, ou construisent une vie qui est une vie qui serait un mensonge. Et le fait de ne pas pouvoir vivre sa vie crée souvent et crée beaucoup de rage, crée beaucoup parfois de la résignation, parfois de la destruction, crée beaucoup de distance à soi aussi, ce sentiment qu'on est minable, et se vit aussi, non pas simplement du point de vue moral ou du point de vue normatif, se vit aussi corporellement, notamment par exemple ce que racontent les femmes sur le thème de la respiration, l'incapacité de respirer, disons, dans cet univers. Alors, si on franchit un cran de plus, ce qui est intéressant, je trouve, et qui nous ramène à Foucault, c'est que les individus dans cet univers construisent des formes d'ambivalence fondamentale et d'ambivalence négative. C'est vrai qu'ils se construisent malgré tout comme des sujets négatifs, au sens où, ce que je voudrais faire comprendre, leur puissance d'agir, pour parler la noble langue habituelle aujourd'hui, leur capacité d'agir, leur capacité d'action, leur subjectivité, se construit par la destruction même de ces conditions de possibilité. Donc elle se construit comme quelque chose de profondément, souvent profondément négatif. C'est le cas de cette population très particulière qui s'appelle les Cassos. Et les Cassos sont des gens intéressants dans cet univers parce que ce sont les vrais pauvres et qui... Ils se construisent, disons, par des récits, par des relations dans lesquelles ils ne sont pas présents. Ils sont comme, et ça a souvent été souligné, comme des personnages de Pirandello, des personnages sans auteur. Mais ce qui ne signifie pas qu'ils ne s'expriment pas ou qu'ils ne parlent pas, mais ce qui signifie qu'ils obtiennent une reconnaissance subjective par leur absence même, d'une certaine façon, et donc par l'émotion qu'ils suscitent chez leur interlocuteur. De manière plus simple, si on observe aussi ce qu'on appelle le jeune de banlieue, c'est assez intéressant, il se construit comme un personnage social, et c'est la condition d'une certaine capacité d'action, mais ce personnage social, disons, il le construit ou il le fabrique par la destruction de sa capacité intersubjective ou sa capacité subjective. D'où le choix chez lui, souvent, de l'échec, de stratégie d'échec. L'échec scolaire en est un bon exemple. Le choix d'être idiot, ça a été une longue interrogation pendant tout ce travail. Le choix d'être conforme aux stéréotypes. Alors, ce que je veux essayer de faire comprendre ici, et ce que je veux essayer de montrer par rapport à une sociologie de Foucault, oui, je vais aller au plus vite, c'est un point de plus, c'est évidemment que cette façon d'utiliser, de recréer de la norme, de fabriquer de la normalisation ou d'imposer cette normalisation, c'est une façon aussi de résister, disons, à une condition sociale beaucoup plus qu'à ou à une forme d'exclusion beaucoup plus qu'à une relation ou un rapport de pouvoir. Et ceci est très perceptible aussi, par exemple, dans le rapport que les gens entretiennent avec les institutions, et notamment, et c'est assez intéressant dans une perspective foucaldienne, les institutions du travail social ou les institutions de la République, que ce soit l'école, mais les services sociaux, la police, la justice et ainsi de suite. Ce que l'on observe, c'est le développement d'une forme de culture anti-institutionnelle, d'une certaine façon, et le développement de rapports qui sont très instrumentaux vis-à-vis de l'institution. Autrement dit, les gens font semblant, les gens ne jouent pas le jeu, les gens n'y croient pas, les gens n'intériorisent pas et ne vivent pas la norme, disons, comme une forme d'oppression, ils la mettent à distance, et ils ne s'engagent pas dans l'espace institutionnel. Ce que je veux dire par là, c'est que la normalisation ne joue pas ou n'a pas d'effet sur eux, tout simplement parce que ce que propose l'institution n'a pas de sens si ce n'est pas en même temps une capacité d'habilitation. Autrement dit, comme ils perçoivent les institutions uniquement du point de vue de leurs contraintes et non pas du point de vue de la capacité que l'institution institution aurait de les habiliter, de les subjectiver, de les faire entrer dans un espace ou de les intégrer, si vous voulez, eh bien, ils mettent tout ça, d'une certaine façon, à distance. Ils n'y croient pas, ils font semblant, ils mentent, pour reprendre les termes qu'ils utilisent. Ils utilisent le jeu du mensonge, de la non-vérité. Donc ils s'abritent derrière toutes ces constructions-là. Et l'institution reste, d'une certaine façon, très impuissante face à ça. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir combien les institutions développent très souvent des systèmes normatifs, l'éducation à la parentalité, l'imposition d'un certain nombre de normes, disons, dans les comportements, et comment, quand on regarde le concret ou la façon dont les choses se développent sur le terrain, pour dire ça comme ça, au fond, tout ça reste dans les textes, tout ça reste dans la tête des travailleurs sociaux, pour prendre cet exemple-là, mais tout ça n'a aucun effet, d'une certaine façon, sur les gens. Alors, ce que je veux essayer de souligner ici, c'est qu'il me semble important de comprendre que les institutions et le pouvoir normalisateur de l'institution doit être compris à partir, disons, de son ambivalence profonde. C'est-à-dire qu'au fond, ça n'a de sens et le pouvoir normalisateur ne s'exerce que s'il a la capacité d'offrir une forme d'habilitation. Et s'il n'offre pas cette forme d'habilitation ou cette capacité d'habilitation aux acteurs, s'il n'augmente pas leur puissance d'agir ou leur capacité d'action, au fond, il n'y a pas de normalisation ou de pouvoir normalisateur qui traîne. Alors, j'ai encore deux minutes. Bon, ben alors, je conclue. Donc, je passe sur le thème, disons, du sexe et du genre, mais le raisonnement est toujours le même. Ce qui est intéressant, disons, dans cet aspect-là que l'on peut observer aujourd'hui, c'est à quel point l'utilisation, et notamment dans un certain nombre d'espaces sociaux, qui sont marqués par cette articulation du genre, de la question de la sexualité d'une part, et de la question de la race et de la construction raciale et du racisme d'autre part, et cette espèce d'articulation, disons, sur la façon dont les corps et les genres vont se construire, ce que je trouve intéressant, c'est la même chose, c'est à quel point la soumission à l'ordre normatif, disons, du genre, le récit amoureux par exemple, pour prendre cet exemple-là, est utilisé pour échapper, disons, au travail de normalisation, ce travail de normalisation ou puissance de normalisation qui vient soit d'un côté de la communauté, pour parler vite, soit d'une définition qui est une définition dominante du genre et de la sexualité. Et c'est dans cette espèce d'ambivalence-là que se construisent les acteurs. Et que se construit une forme d'identité ou une forme de résistance ou une forme de subjectivité qui est très importante puisqu'il s'agit ici de la subjectivité féminine. Alors, ce que je veux essayer de comprendre, c'est que pour un sociologue, pour un sociologue et pour la sociologie, au fond, ce diagnostic foucaldien me semble être un diagnostic trop caricatural et il ne permet pas, d'une certaine manière, de comprendre les relations sociales et les formes d'action sociale. Cela suppose, pour comprendre ça, cela suppose, et ce qui a toujours, me semble-t-il, été dans la tradition sociologique, de comprendre la nature profondément ambivalente des institutions et notamment la nature profondément ambivalente de la norme qui est à la fois contrainte, pour parler vite, mais aussi qui ouvre l'espace d'habilitation, qui ouvre, disons, la capacité d'habilitation au sujet. Voilà ce que je voulais dire. Merci.